Caroline Saint-Hilaire. Elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique. Cube Radio.
Un été pas comme les autres.
Deloitte Canada publie un rapport lançant un avertissement très important, un avertissement face à la nécessité de réagir à la crise humaine en évaluant le fardeau mental à long terme possible associé à la pandémie de la COVID-19 au Canada. Et on va en parler avec le directeur principal, service conseil en économie de chez Deloitte Canada, Mathieu Laberge. Bonjour, Monsieur Laberge.
Bonjour, Madame Saint-Hilaire.
Alors, si vous pouviez nous résumer en gros les chiffres de votre rapport, quels sont les chiffres qui sont les plus parlants selon vous?
Bien, en fait, dans le cadre du rapport, on a principalement regardé les impacts sur les volumes de soins nécessaires en santé mentale, parce que c'est la donnée qui était disponible à ce moment-ci. Il y a d'autres impacts humains dont on pourra parler. Mais en termes de santé mentale, ce qu'on voit, c'est qu'il pourrait y avoir une augmentation jusqu'à presque trois fois le nombre de visites à un professionnel de la santé mentale et jusqu'à 20% plus de prescriptions d'antidépresseurs dans les mois et les années à venir.
C'est majeur, ça, comme implication, parce qu'on l'avait vu, bon, après la crise sanitaire, la crise économique, on pouvait anticiper des problèmes au niveau psychologique, au niveau de santé mentale, mais là, les chiffres que vous dévoilez ce matin dans votre rapport, c'est assez concluant, et dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'il faut s'y préparer, là.
Absolument, et je pense que vous l'avez dit, les récessions, les crises économiques mettent un fardeau de stress sur les individus, les désastres naturels ou pandémiques également, mais la combinaison des deux dans ce cas-ci fait en sorte que le fardeau d'anxiété, le poids mental, le stress que les Canadiens, les Canadiennes, les Québécois et les Québécoises ont à vivre est particulièrement important. Puis il faut se préparer face à ça. Hein, la pandémie nous a surpris, la crise économique nous a déstabilisés, mais celle-là, on la voit venir. Et ça veut dire, par exemple, les réseaux gouvernementaux comme les écoles et les garderies, c'est un milieu particulièrement propice à identifier pas seulement les enfants qui sont à risque, mais aussi l'ensemble de l'écosystème familial. Quand on a accès à un enfant, on a accès à ses parents. Alors, c'est des réseaux qui sont en première ligne pour identifier les personnes, les familles qui sont à risque, puis les référer aux bonnes ressources, que ce soit du réseau public ou du réseau privé, pour avoir pour répondre à leurs besoins de support en santé mentale.
D'autres chiffres de ce rapport, et je déclare mon intérêt, et c'est des chiffres qui font peur aussi, parce que 68% des personnes qui ont perdu leur emploi sont des femmes, et vous parlez même potentiellement d'une récession au féminin.
Oui, ben en fait, je pense que ça a été le grand constat marquant de l'étude aussi à propos des populations vulnérables. C'est une condition, une situation qui impacte particulièrement les femmes. Il faut garder ça en tête, il faut faire attention. Il y a trois fois plus, parmi les pertes d'emploi de la récession actuelle, il y a trois fois plus proportionnellement de femmes qu'en 2008-2009. Donc 68 versus 18%. Les femmes sont aussi, et particulièrement les mères monoparentales, plus à risque de bas revenus. Et dans les sondages de Statistique Canada, soit les sondages réguliers ou même les sondages liés à la pandémie, les femmes sont plus susceptibles de déclarer des besoins de support en santé mentale et plus susceptibles que les hommes de déclarer que leurs besoins ne sont que partiellement ou pas du tout rencontrés. Alors, il faut avoir une bonne pensée pour nos amis, nos membres de la famille, nos collègues féminins qui ont besoin de notre aide présentement, là.
Je pense qu'on peut faire mieux qu'une bonne pensée entre vous et moi, mais ce sera... C'est pas de notre sort à vous et moi, je comprends bien ça. Mais dans votre rapport, parce que bon, vous faites référence au fait que des femmes perdent leur emploi, sont plus nombreuses à perdre leur emploi, et à l'inverse, on a aussi vu pendant la pandémie que les services essentiels, que ce soit les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, sont beaucoup des femmes aussi. Ça n'empêche pas qu'elles peuvent se retrouver, elles aussi, dans la problématique de la santé mentale en plus.
Oh, absolument. Dans un cas comme dans l'autre, quand on perd notre emploi, puis il y a proportionnellement plus de femmes qui perdent leur emploi dans la récession actuelle, essentiellement parce que l'industrie des services est plus touchée. C'est une industrie où les salaires sont plus bas, mais aussi où il y a une surreprésentation des femmes dans les employés. Alors, d'un côté, il y a le stress financier, le stress d'être isolé. De l'autre côté, il y a aussi le stress, puis le poids mental d'être en première ligne, puis de répondre à ça, puis de pas savoir si on va rentrer à la maison porteur du virus, puis contaminer l'ensemble de sa famille. Dans les deux cas, Puis vous avez bien raison, ça doit aller au-delà de la bonne pensée. Il faut soutenir nos amis, nos collègues féminines qui font face à une charge mentale extrêmement lourde dans la situation actuelle.
Est-ce que c'est une responsabilité, puis là je dépasse un peu peut-être votre étude, votre rapport, mais je me permets quand même, est-ce que ça revient aux employeurs, ce soutien-là, ou davantage au gouvernement?
Tout le monde doit mettre la main à la pâte pour soutenir. Hein. Je pense que vous avez mentionné les employeurs, absolument, il y a un rôle à jouer, que ce soit d'abord en regardant la flexibilité qu'on peut fournir pour faire face à la situation. Il n'y a pas une bonne façon ou une façon unique de faire face à la situation. Il y a autant de façons d'y faire face qu'il y a d'humains. Hein, puis on se cachera pas encore là sur le thème du fardeau que ça a pour les femmes. Dans la littérature, on voit bien que les femmes, quand les enfants restent à la maison, sont plus susceptibles de rester à la maison aussi que les hommes. Alors, il faut pas se le cacher, ça a un impact ça aussi. Donc, voir quelle flexibilité les employeurs peuvent offrir. C'est même une opportunité pour les employeurs d'engager dans la discussion, de savoir est-ce que le niveau de support puis de bénéfices qu'on offre est adéquat? Est-ce que ce sont les bons bénéfices? Est-ce qu'on doit en offrir plus? Puis si c'est le cas, ben le considérer très sérieusement. C'est une situation qui est unique, qui demande des solutions uniques et tout le monde doit mettre la main à la pâte, employeur comme gouvernement.
Vous avez analysé les deux événements qui ont eu une forte incidence là sur la santé mentale, que ce soit les récessions de 90-2008. Et à chaque fois, dans le fond, votre analyse prouve que la crise humaine, la crise au niveau de la santé mentale, ça peut durer pas juste des mois, des années. Qu'est-ce qu'on a fait dans le passé qu'on pourrait répéter en 2020?
Ah, je pense que c'est la question clé, parce que dans la situation actuelle, il y a la combinaison de la récession, du ralentissement économique et de la crise pandémique avec l'isolation. On a aussi regardé Fort McMurray, hein. Puis ce qu'on voit, c'est essentiellement ce que vous avez dit, durant la récession ou pendant le désastre naturel ou pandémique, le volume de personnes qui ont besoin de support de santé mentale augmente rapidement, mais redescend pas. Dans les données qu'on voit, entre autres pour Fort McMurray, depuis 2016, il n'y a pas eu de retour à la normale de pré-désastre. Puis dans le cas des récessions, ben la part du taux de chômage de long terme demeure élevée pendant des années. Là, on parle de 2 à 5 ans ici. Donc, je pense qu'il y a des choses à apprendre. Faut tabler sur l'identification très tôt des populations qui sont à risque. Puis une des pistes de solution qu'on identifie là, qui a été implantée dans d'autres désastres naturels, c'est d'avoir des gens dans les réseaux gouvernementaux qui sont en première ligne, les écoles, les garderies, mais aussi les hôpitaux, les CLSC, puis même les bureaux du gouvernement, des gens qui sont équipés pour dire, ah ben cette personne-là, là, elle présente des facteurs de risque, elle présente un comportement qui laisse croire qu'elle est à risque, on va lui offrir des ressources. Ça, c'est une première étape. L'autre étape aussi qu'il faut envisager, puis je pense qu'en 2020, on est bien positionné pour ça, c'est de dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire sans avoir de présentiel, hein, comme on dit là, ces temps-ci, et qu'est-ce qu'on peut faire de façon digitale, à partir de la maison. Il y a des cliniques, il y a des fournisseurs de services en santé mentale, mais aussi d'autres types de services qui ont fourni un vaste ensemble de services là, qui sont soit par vidéoconférence sécurisée, soit par téléphone, ou même par webinaire ou avec des apps. Je pense qu'on est dans une époque où particulièrement le canal digital là, s'applique. On devrait ouvrir la porte à ça puis rendre l'accès à ces services-là plus facile puis plus approprié d'une façon sécuritaire.
Ben, espérons que les gouvernements nous entendent, parce qu'effectivement, j'ai comme l'impression qu'on n'apprend pas des erreurs du passé. Et puis en même temps, au risque de me répéter, il me semble qu'on pouvait anticiper tout ça. On voyait déjà l'isolement. Pendant le confinement, il y avait comme des drapeaux qui s'allumaient, qui se brandissaient, pardon, en disant, notamment au niveau des enfants, parce que bon, vous parlez des femmes, vous parlez des problèmes de santé mentale, mais il y a des répercussions chez les enfants aussi, veut pas, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui vivent dans des milieux plus vulnérables. Ça me rentre pas dans la tête, comment se fait-il qu'on n'anticipe jamais ces scénarios-là?
Ben, puis je pense que un des autres effets, que malheureusement, parce qu'il n'y a pas de données à l'heure actuelle, on n'a pas pu étudier, mais un des autres impacts humains de ce genre de situation-là, c'est sur la réussite scolaire puis la persévérance scolaire. Hein. Faut pas se le cacher, il va y avoir des enfants, comme vous le dites, qui vont avoir besoin de support, qui vont avoir besoin d'aide, qui vont avoir besoin de rattraper le retard qui a été accumulé, même dans les quelques mois, les enfants qui sont les plus à risque. Donc faut garder ça, puis je pense que le rôle du rapport aujourd'hui, c'est de mettre ça sur notre radar collectif, puis espérons-le de s'engager dans une discussion qui est transparente puis ouverte sur ces questions-là, de sorte à ce qu'on puisse y répondre efficacement. Hein, comme on disait, la pandémie nous a surpris, l'économie nous a déstabilisés, il y a pas de raison de pas voir la crise humaine arriver puis de pas s'y préparer.
Je me permets une dernière question. Est-ce que dans votre rapport, vous avez établi des chiffres variables entre Montréal et les autres régions du Québec ou les grands centres? Est-ce qu'il y a plus de problématiques dans des grandes villes versus les plus petites communautés?
Ah, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on a pu creuser à ce moment-ci. On a surtout regardé là, l'impact canadien, parfois les provinces. On a certaines données sur Montréal et Toronto, mais on n'a pas pu creuser plus loin que ça. Encore là, essentiellement, on a été contraint par la disponibilité des données.
Ben merci infiniment, espérant que ce rapport-là donne des munitions au gouvernement supérieur pour trouver des solutions.
Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui.
Merci beaucoup. C'était Mathieu Laberge, directeur principal service conseil en économie chez Deloitte Canada.